Bien, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre nos échanges et nos débats de cet après-midi, à Bordeaux, consacré à l'œuvre d'Hervé Le Tellier, à celle de Georges Perec et au travail de l'Oulipo. Et pour terminer cet après-midi, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Hervé Le Tellier. Je le remercie de nous accorder un peu de temps et d'une manière non pas irrévérencieuse, mais d'une manière peut-être directe, non pas oblique, comme il a été question cet après-midi, j'ai envie de lui demander si sa venue à l'Oulipo, qui est ancienne, vous avez rejoint l'Oulipo dans les années 90, vous présidez à son travail, à ses activités depuis 2019, est-ce que dans ce groupe, où les liens, non seulement de travail, mais d'amitié, les liens humains me semblent très forts, est-ce que vous avez trouvé comme une sorte de famille, alors le mot peut faire sourire, de famille spirituelle, est-ce que vous avez trouvé une famille de pensée?
Les gens sont spirituels à l'Oulipo, hein, donc y a pas de problème avec le nom de famille spirituelle. L'idée de famille n'est pas une mauvaise définition. On dirait religion, ça irait aussi, puisque religio, c'est ce qui nous relie. Donc on a des points communs, des intérêts communs, des appétences communes. Ce qui est vrai, c'est un groupe d'amis. C'est-à-dire, l'une des questions pour entrer à l'Oulipo, Paul Fournel le formulait voici une trentaine d'années, il faut être charmant. Voilà, ce qui veut dire qu'Eduardo est charmant, que Clémentine de Mélois est charmante, et que tous les membres qui ont été cooptés sont à leur manière charmants. C'est-à-dire que, étant donné que lorsqu'on rentre dans ce groupe, on n'est pas censé le quitter, sauf à se suicider devant huissier pour s'initier sa volonté de le faire. L'idée qu'on va passer une vie ensemble, parce que ça va être une vie, en fait, oblige en quelque sorte le groupe à se choisir des membres qui sont supportables humainement, c'est-à-dire qu'ils ont assez d'ego pour écrire et suffisamment pas pour poser des problèmes collectifs. Donc c'est une condition quand même du groupe. Alors après, effectivement, est-ce que pour moi ça correspondait à une famille possible ? Oui, c'était évidemment une option, mais que je n'avais pas envisagée, c'est-à-dire que je suis rentré dans le groupe un peu dans l'ignorance de ce qu'il était en termes concrets de fonctionnement. J'avais été invité d'honneur, comme l'a été chacun des membres de l'Oulipo, avant d'être coopté. Lors de cette réunion, j'avais dû être charmant. Et moi-même, en sortant de cette réunion, j'étais charmé. Je trouvais que les gens que j'y croisais, et que j'avais croisé à l'époque, il y avait François Kardec, il y avait évidemment Jacques Roubaud, il y avait Jacques Bins, qui était un ami, Paul Fournel, bien sûr, mon éditeur, et quelques autres, mais globalement, je connaissais trois personnes au sein de ce groupe. Et je connaissais assez peu, d'ailleurs, à l'époque, Perec. J'avais lu La vie, mode d'emploi, j'avais lu La disparition, j'avais lu Ellis Island, mais c'est tout. Et donc j'avais une assez faible connaissance finalement de ce qu'était l'Oulipo et aucune conscience en revanche de comment ça fonctionnait. Un jour, Paul Fournel m'a appelé un soir et il m'a dit « Est-ce que tu veux être membre de l'Oulipo ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Tu es membre de l'Oulipo » puisque ça avait déjà été voté, ce qui semble logique parce qu'on ne peut pas vous demander si vous voulez être membre de l'Oulipo et puis revenir deux jours plus tard en vous disant « Ils ne veulent pas finalement ». Ça serait désagréable. Donc en fait, lorsqu'on vous le propose, c'est que ça a déjà été décidé. Et c'est en rentrant à l'Oulipo que j'ai découvert que la phrase de Queneau, nous découvrons le mouvement en marchant, enfin, ou nous réinventons le mouvement en marchant, était parfaitement efficace et définissait bien le travail que nous faisions. Et puis, pour continuer dans l'un des débats qui a été tout à l'heure avancé, j'ai découvert que, évidemment, comme chaque membre de l'Oulipo, j'étais oulipien depuis bien avant d'y rentrer, c'est-à-dire que toute une série de mes travaux et de mon rapport à l'écriture en général était un rapport directement lié à un goût pour la contrainte, et donc forcément un goût pour la liberté, parce que ça va ensemble, et c'est une évidence, en fait, pour quiconque la pratique. Enfin, la phrase est à la fois de Baudelaire et de Valéry, enfin, tout le monde le dit, il y a une dimension de très grande liberté à s'appliquer une contrainte, parce que ça nous libère des immédiatetés de la langue. Et très vite, on se rend compte que tout ce qu'on a pu faire auparavant, tous nos goûts littéraires, notre bibliothèque elle-même est constituée de gens qui sont assez proches, en fait, des démarches oulipiennes. Pas toujours, hein, parce que, par exemple, j'avais une bibliothèque très garienne, avec beaucoup de bouquins de Romain Gary, et on ne peut pas dire que Gary soit un fanatique de la contrainte. Mais, en revanche, j'avais évidemment des livres de Vian, des livres de Queneau, j'avais beaucoup d'ouvrages qui s'apparentent à l'Oulipo, c'est-à-dire Lewis Carroll, J'arrive, j'avais tout ça chez moi. Donc, arriver dans le groupe était évidemment une sorte de... Et Calvino, évidemment, j'avais tout Calvino. Était une sorte de d'émerveillement, c'est-à-dire vraiment. À un moment donné, quand j'ai découvert que j'étais membre de l'Oulipo, il m'a fallu un certain temps pour comprendre que j'étais membre du groupe dont avait fait partie Italo Calvino. Je trouvais ça très, très fascinant.
J'espère ne pas vous heurter, mais...
C'est difficile, hein.
Oh, je n'ai pas l'intention de vous heurter.
Non, mais d'expérience, c'est difficile.
Je vous crois sur parole. Je vais recevoir vos propos, ce que vous venez d'énoncer, comme un indice, et je vais m'entêter. Je vais m'entêter parce que vous avez écrit « Toutes les familles heureuses », où il s'agit d'une famille... Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, et par analogie, je souhaite vous interroger à propos de l'Oulipo et de votre place dans l'Oulipo. Dans « Toutes les familles heureuses », vous dites que votre compagne, il lui arrive de vous reprocher que dans votre roman familial, vous ne deviez rien à personne. C'est vous qui l'écrivez. Alors, je ne vais pas vous interroger pour savoir si c'est vrai.
Et je dis juste après qu'elle insiste en disant « Or, ça n'existe pas. Tout le monde doit quelque chose à tout le monde. » Et je lui réponds « Évidemment, elle a raison, elle a forcément raison. » Et on doit, y compris au manque. On a tout à l'heure parlé du manque. Le manque chez Pérec est quelque chose de central, très opératoire même, déterministe même chez Pérec. Et chez moi, le manque est aussi opératoire. C'est un autre type de manque, complètement inversé, puisque c'est l'absence d'une mère au sens maternel et aimant. Mais ce manque est opératoire, oui, il n'y a pas de doute là-dessus.
Alors, ce que je voulais dire sans malice, je voulais vous entendre sur ce point. D'un côté, peut-être qu'il y a un versant du roman familial où vous ne devez rien à personne, peut-être, et puis ce manque fait que vous éprouvez le besoin d'avoir, on l'a employé cet après-midi à plusieurs reprises, des figures tutélaires. Et parmi ces figures tutélaires, Pérec, pas seulement lui.
Oui, alors, en fait, l'absence de figure paternelle, selon le terme lacanien, qui d'ailleurs ne s'applique pas nécessairement au père, mais peut prendre d'autres formes. Chez moi, je l'ai comblé à travers à la fois des individus élus, qui vont du grand-père, mais de manière fugitive, parce qu'il disparaît quand j'ai 10 ans, à des individus qui permettent de me construire et qui vont de mon professeur de philosophie en passant par... des hommes plus âgés et qui ou des femmes même, parce que la figure paternelle ne s'adresse pas uniquement, enfin selon Lacan, et je crois qu'il a raison, ça passe pas du tout forcément par le genre, ça figure par cette idée du père sévère.
C'est une affaire de structure.
Une affaire de structure, c'est pas du tout une affaire de définition et pas du tout une affaire de genre. Donc cette idée de trouver des figures structurantes autour de moi, oui, c'est quelque chose qui était important. Et certaines de ces figures ont été des figures abstraites ou en tout cas abstractées. comme par exemple des œuvres littéraires ou des écrivains. Et pour moi, Calvino, Gary appartiennent à ces figures tutélaires dans lesquelles je me retrouvais. Et au fond, quand je dis à un moment donné qu'il n'y a pas de peur plus bête en littérature que la peur d'être influencé, en fait, ça revient à une idée que le père est un modèle, et donc on veut faire pareil. C'est pour ça qu'on existe d'ailleurs en tant qu'espèce sur Terre, c'est qu'on fait pareil que nos parents, et que les gens de notre tribu, et que finalement on a réussi à survivre de génération en génération grâce à cette capacité d'imitation dans laquelle on est. Mais au-delà du côté darwinien de la chose, il y a une évidence, c'est que pour moi, faire pareil en littérature, c'était quelque chose qui était naturel et qui ne m'a jamais posé problème. Au point qu'il m'arrive de regarder la plupart de mes romans ou de mes travaux comme étant référencés. Pas forcément référencés de manière évidente, mais à chaque fois, je pourrais dire ceci est né de cela, d'une lecture ou d'un goût. Clairement, l'anomalie est née de exercices de style et de Si par une nuit d'hiver un voyageur, parce que Si par une nuit d'hiver un voyageur lui-même était né de exercices de style, comme le Calvino l'explicite extrêmement bien. Si je dois parler du volant de la nostalgie, le volant de la nostalgie est construit autour d'une structure calvinienne de jeu et même dans la langue. C'est mon premier roman. J'avais fait d'autres textes avant, mais qui étaient des nouvelles. Ce premier roman se place clairement sous la figure tutélaire de Calvino. Et puis, je pourrais énumérer comme ça la plupart de mes travaux. Je compte jusqu'à 100, ça joue avec exercice de style. Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. Ça fait évidemment une référence discrète à Je me souviens de Pérec, même si ça fonctionne tout à fait de manière autonome. Mais il y a cette dimension... Si lui l'a fait, ça doit être possible de le faire moi-même, et je vais le faire différemment. Et à l'Oulipo, il y a toujours eu cette idée que faire pareil que son camarade, c'est pas gênant. Et je crois que c'est extrêmement libérateur aussi de pouvoir se dire qu'on peut faire pareil. On pourrait énumérer les livres des Oulipiens qui sont construits à partir de cette idée de grande liberté autorisée par l'absence de terreur d'imiter quelqu'un. Ils sont très nombreux. La possibilité de voir, par exemple, on a le livre de Pérec, qui est une petite nouvelle, qui s'appelle « Le voyage d'hiver ». Le fait que tout le monde se soit emparé à l'Oulipo du voyage d'hiver pour en faire une œuvre collective est indicateur de cette capacité qu'on a au sein du groupe à travailler collectivement et individuellement sans frayeur des influences qu'on a les uns sur les autres. Ça foisonne hein, à l'Oulipo. On a parlé tout à l'heure de la vie mode d'emploi, mais dans 53 jours, le nombre d'intertextualités est absolument hallucinant.
Faire pareil, j'entends, mais on ne fait jamais pareil.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on peut faire pareil. Si on faisait vraiment pareil, ça s'appellerait du plagiat.
Oui.
Non, plus on va vers l'autre et plus on va vers soi en littérature, parce qu'il n'y a pas de contradiction en fait à se trouver dans le texte des autres. En fait, pour moi, l'idée forte, c'est que si les textes, disons, nous influencent, c'est que justement, ce n'est pas une influence, c'est un écho qu'ils trouvent en nous. C'est-à-dire que quand je lis Gary et quand je lis La vie devant soi, d'Ajar, certes, la raison pour laquelle ce texte me plaît autant, c'est pas parce que il va m'influencer, c'est parce que je trouve que il y a dans l'écriture d'Ajar quelque chose que j'aimerais moi-même atteindre et qui, en tout cas, cogne en moi. Et ce n'est pas le cas pour d'autres auteurs. Je ne trouve pas ce plaisir chez Musil. Non pas que je n'aime pas Musil. Parfois, on aime des livres sans avoir pour autant envie de faire pareil. Et je n'ai jamais eu envie de faire pareil que Musil. Donc, il y a des auteurs, par contre, dont on a envie de s'approcher. Parce qu'au fond, on a envie de les avoir comme amis, parce qu'on les a déjà comme amis, ils sont dans notre bibliothèque et ce sont des non seulement des figures entre guillemets tutélaires, mais ce sont des figures amicales, voire protectrices, enfin, dans la limite où on peut avoir des dieux protecteurs chez soi. Les livres en font partie. Enfin, il n'y a pas de doute pour moi. Donc cette idée de faire pareil, c'est évidemment pas l'idée de l'imitation, mais l'idée de trouver le moyen à travers des livres existants de faire des œuvres autonomes.
N'est-ce pas une conception et une pratique, les deux, conception et pratique, élitiste, dans la mesure... Alors, je déplie ma question. Groupe d'amis, figure tutélaire, il s'agit d'être charmant. Alors, dans charmant, il y a charme. J'entends la magie. C'est quand même une affaire d'élection.
Oui, c'est... oui, oui. Alors, c'est moins élitiste que élitaire. Bon, moi, j'ai jamais rien eu contre une certaine forme d'élitisme. Je pense que... Alors, ça mériterait d'être très longuement explicité, mais je pense que dans le caractère électif des familles, on trouve quelque chose, justement, de s'approfondir. On retrouve cette même idée de y faire pareil. On se choisit des amis pour avancer collectivement, parce qu'on a vite... on avance plus vite collectivement. Donc oui, il y a une dimension de choix, enfin, puisque l'élection, c'est d'abord un choix. On choisit les livres dans lesquels on veut vivre, on choisit les amis avec qui on veut être. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout de revenir à l'étymologie du mot élitiste, qui est juste simplement une notion de choix. Le choix, c'est la liberté, en fait. Et donc ça fait partie de ces libertés qu'on a. J'ai été dans d'autres familles également électives et également élitistes plus tôt, qui étaient des familles militantes. Et ça ne m'a jamais vraiment totalement dérangé. Même l'émission qui s'appelait Les Papous à France Culture était une sorte de famille. On se retrouvait de manière affectueuse, même si on ne se voyait pas en dehors des travaux de l'émission. Et d'ailleurs, à l'Oulipo... il y a des gens qui sont proches de nous, y compris affectivement, et d'autres qui sont proches de nous au niveau du travail. Ce n'est pas forcément les mêmes. Il y a des petites nuances entre les choses. Donc, moi, j'aime bien cette idée des choix. Je pense que si ce n'était pas le cas, le groupe aurait disparu depuis très longtemps. On est face à un groupe littéraire qui existe depuis maintenant 61 ans, très précisément en ce moment. Il n'est pas possible de maintenir la vitalité, la créativité et la cohésion d'un groupe aussi longtemps s'il n'y a pas une dimension affective et s'il n'y a pas très profondément inscrit quelque chose qui est de l'ordre du choix personnel, collectif. C'est-à-dire quelque chose qui, justement, fait que chacun des individus trouve quelque chose à apporter à l'Oulipo. D'ailleurs, les critères pour faire rentrer quelqu'un à l'Oulipo, c'est quoi ? C'est en dehors du côté charmant. Il faut non seulement que la personne apporte quelque chose à l'Oulipo, mais il faut que l'Oulipo apporte quelque chose à la personne. Et ces deux éléments qui sont des éléments qui disent les critères que nous mettons en avant pour faire rentrer quelqu'un dans le groupe.
Tout à l'heure, à propos de Pérec, il a été... question de transmission. Et l'un de nos invités disait « Il y a peut-être les faux juifs et les vrais juifs. Et le vrai juif, c'est celui qui a un fils juif. » Est-ce que il n'y a-t-il pas, je ne veux pas dire de faux écrivains et de vrais écrivains, vous voyez, je m'empare de la formule, et que les vrais écrivains, ce seraient ceux qui ont des fils écrivains.
La phrase de Borges est inversée, c'est-à-dire que les vrais écrivains sont ceux qui créent leurs propres prédécesseurs. Donc cette notion peut être parfaitement réversible. On peut très bien aussi avoir la vision définitive. Il y a des écrivains pour écrivains, puis il y a des écrivains pour lecteurs aussi. Et parfois, les écrivains pour écrivains essayent d'être des écrivains pour lecteurs. Ils tentent de l'être, en tout cas. Donc, je ne sais pas où serait la ligne entre la... Enfin, ce qui définit l'écrivain, c'est le fait qu'il a écrit et qu'il a été publié. Voilà, c'est une définition quasi économique. Et qu'il a écrit pour d'autres, c'est pour ça qu'on a choisi son livre. Donc cette définition convient. La littérature est un acte d'écriture volontaire, et ça la définit formidablement bien. Ça la distingue, par exemple, des horaires de train ou des annuaires, même si Breton a fait la démonstration qu'avec un annuaire, on peut très bien écrire de la littérature. C'est le troisième secteur dont parlait François Le Lyonnais, fondateur de l'Oulipo. Mais la vraie question, ça serait une question à laquelle il n'y a pas de réponse, qui serait de savoir où se trouve la ligne rouge entre la bonne et la mauvaise littérature. Et ça, c'était impossible à déterminer. En revanche, la définition de l'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit volontairement. Et la définition de l'oulipien, c'est quelqu'un qui écrit volontairement et consciemment.
Dans mon esprit, il ne s'agissait pas de distribuer des bons points en disant il y a de la bonne et de la mauvaise littérature. J'avais en vue ce qui peut expliquer, il y a sans doute plusieurs facteurs, le caractère pérenne de l'Oulipo. Vous l'avez dit, 61 ans, un groupe qui est cohérent, qui se maintient, d'amis. Il y a ce rapport, c'est très frappant dans notre conversation, les termes de parenté, de famille,
oui, oui,
de transmission, d'élection, on se choisit.
Et de tribu, c'est-à-dire que il y a aussi à l'Oulipo de temps en temps des tensions et une volonté de les apaiser. C'est-à-dire, parce qu'en 60 ans, on imagine bien qu'il y a forcément eu des moments de crise. Les moments de crise ont été toujours liés à des moments qui étaient soit des moments de fracture, soit des moments de deuil. Par exemple, après la mort de Queneau, s'est posé la question de savoir si l'Oulipo continuait. À la mort de Pérec, s'est posé la question de savoir si l'Oulipo continuait. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute que, à moins d'un crash qui élimine les deux tiers des Oulipiens, dans lesquels, mais maintenant, nous volons toujours sur des avions séparés, ça a été voté.
Méfiez-vous.
À moins de la disparition des deux tiers des Oulipiens, ça continuera. Donc, ces questions ont été, en quelque sorte, réglées par la constitution non écrite de l'Oulipo, qui fait que nous avons des intérêts communs trop importants pour que l'Oulipo puisse disparaître à la suite d'une brouille. Donc, on passe au-dessus des brouilles, même s'il y en a. Voilà, c'est plus intéressant de ce point de vue-là. Donc oui, vous avez raison, ces notions de parentèle, même, sont des notions importantes. Moi, je ne les nie pas du tout, et je pense même que l'une des raisons pour lesquelles l'Oulipo survit, c'est à cause de ses parentèles. C'est-à-dire que nous sommes amenés, et nous sommes intéressés par la continuation, d'une certaine manière, du travail des Oulipiens antérieurs. Parce qu'on les lit, parce qu'on n'a pas peur de l'imitation, parce qu'on sait que c'est fécond d'imiter. Il est clair que toute une série de textes oulipiens viennent de la notion qui est présente chez nous de l'excuser pour cause de décès. C'est-à-dire que l'oulipien n'est pas vraiment mort, il continue à exister. C'est une présence un peu invisible dans les réunions. Et il est possible de continuer à écrire la continuation d'eux. C'est vrai, de manière générale, de toute la littérature. Tout à l'heure, on évoquait, par exemple, le texte de Edward Doherty, qui parle de Nathaniel Hawthorne et de Mr. Wakefield, et qui l'autorise à écrire Mrs. Wakefield. L'oulipien pourrait écrire Monsieur Bovary. Ça serait, à ce moment-là, non pas Emma Bovary, c'est moi, mais Charles Bovary, c'est moi. Bon, il est un peu plus con que Emma. La question n'est pas là, mais...
Il est moins charmant.
Il est moins charmant, et il a ses faiblesses, disons. Mais c'est une possibilité en permanence de faire de la littérature le terrain de jeu généralisé. Et cette idée-là, elle est très oulipienne, elle nous permet de continuer aussi à exister et à produire. Donc c'est lié aussi à l'idée de famille qui va déborder, à mon avis, de très loin la notion d'Oulipo. C'est que... non seulement toutes les œuvres oulipiennes font partie du corpus, mais toutes les œuvres oulipisables font partie du corpus. Et donc, on a droit à presque tout. On peut jouer avec tout ce qu'on veut. On peut emprunter, on peut poursuivre des œuvres et on peut s'inspirer d'œuvres. Et ceci explique, à mon avis, qu'on survit depuis si longtemps. C'est que le principe même de l'Oulipo, qui est un principe à la fois de jeu, de combinatoire, de procédé, de procédure, existe depuis la nuit des temps et nous avons simplement formalisé au sein d'un groupe l'existence d'un courant littéraire qui a toujours été maintenu au fil des siècles et au fil des époques et au fil des civilisations. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, constitue un groupe international, mais qui n'est pas une invention. D'où l'idée du plagiat par anticipation. C'est que ce n'était pas possible de considérer que des gens qui avaient produit des textes de nature oulipienne avant nous soient exclus du groupe. Donc c'est toutes ces notions-là qui font que le groupe, à mon avis, a ses chances de durer. C'est qu'il trouvera toujours, au sein du monde littéraire, des individus, tant que la littérature existera en tout cas, il trouvera toujours au sein du monde littéraire des gens que cette démarche intéresse, parce que c'est un courant qui existe depuis l'origine de la littérature, et même, on l'a dit, non seulement depuis l'origine, mais qui fonde l'origine de la littérature. Tout à l'heure, on expliquait que les mots, dans toutes les langues, quasiment racontés et comptés, ont la même origine. C'est lié à la mélodie, à la rythmique, à la rimique, qui est présente dans toutes les littératures fondatrices, de Gilgamesh en passant par l'Ecclésiaste, en passant par, évidemment, l'Iliade et l'Odyssée. Donc, de la Mésopotamie, en passant par le monde hébraïque, en passant par les Grecs, il y a toujours eu cette présence très forte de la numération et de l'énumération au sein de la littérature. Donc ces courants-là sont très anciens. L'idée géniale de François Le Lionnais et de Raymond Queneau, c'est d'avoir créé un groupe qui au début s'est appelé le Celitex, séminaire de littérature expérimentale, et qui est rapidement devenu, grâce à l'excellente idée de l'Albert Marie Schmitt, l'ouvrage de littérature potentielle. Parce qu'Oulipo est quand même beaucoup plus sympa que Celitex, au point qu'on a dû se battre pour que quelqu'un n'en fasse pas une marque de vêtements. Donc je pense que ce courant, qui donc préexiste à l'Oulipo, fait que l'Oulipo existera longtemps.
Extérieurement, je suis d'accord avec vous, parce que tout simplement, il me semble, enfin, tout simplement, on va enlever l'adverbe, j'ai l'impression que l'Oulipo prend en compte, vous venez de le dire, le fonctionnement même de l'écriture et la façon dont la littérature s'est constituée dans cette partie du monde. Je songe au conseil de Cicéron voulant que ses pairs et que lui-même imitent les Grecs, avec la notion de contamination. Il fallait imiter les Grecs pour fonder une littérature latine digne de ce nom. Il n'empêche, et je crois que vous m'accorderez que je n'ai pas tout à fait tort, à l'extérieur de l'Oulipo, on parle beaucoup du groupe, on parle beaucoup de sa trajectoire. Et l'on peut remarquer que parfois, à son corps défendant, si j'ose dire, l'Oulipo agace. L'Oulipo irrite un peu. Parce que ce que vous venez de nous dire, à bien des égards, je force le trait, évidemment, l'Oulipo peut annexer la littérature mondiale.
Absolument. Absolument. À quelques exceptions près, c'est notre projet, comme disait, ou comme dit un président célèbre. Le projet est moins une annexion que de discerner au sein de la littérature mondiale ce qui relève de notre oulipisme. Donc on est dans une démarche qui n'est pas une démarche, disons, d'annexion, mais de reconnaissance. L'Oulipo, en fait, fait deux travaux qui sont simultanés et complémentaires. Le premier travail, c'est ce qu'on appelle l'anoulipisme. Donc c'est l'analyse, etc. Et c'est la recension de tout ce qui, dans l'univers littéraire de toutes les époques et de toutes les civilisations, relève de l'Oulipo, c'est-à-dire de la contrainte, de l'écriture sous contrainte. Et le deuxième, c'est le saint-oulipisme. Ce n'est pas écrit avec S-I-N-T, mais avec S-Y-N-T-H. Donc l'idée de synthèse et donc de création, à partir de ce qu'on a pu découvrir, de nouvelles contraintes. Et de réexplorer, parfois, de nouvelles voies, comme par exemple a pu le faire Pérec avec le palindrome, avec le lipogramme, qui sont des formes aussi anciennes que l'écriture alphabétique, et dans lequel se sont, avec délice, plongés les Grecs et les Latins. Et le fait que Pérec et d'autres redécouvrent et revisitent ces contraintes prouve justement la diversité de ce qu'on peut faire avec la littérature d'autrefois. Mais on n'a pas pour autant vocation à tout absorber. Je ne pense pas, par exemple, en aucune façon que les textes de Gary relèvent, qui est pourtant un des auteurs favoris, relèvent d'une quelque façon de textes sous contrainte. Voilà. D'ailleurs, Gary ne s'est jamais lancé dans la poésie. C'est une chose qui m'a toujours étonné. Il n'y a pas de poésie de Romain Gary. Il n'y a pas de chanson de Romain Gary. Il n'y a pas, il s'est lancé dans le cinéma, dans la nouvelle. Mais les lieux où il excelle, c'est le roman. On ne peut pas tout annexer. C'est fort bien comme ça. On est très heureux que d'autres formes d'écriture existent. Et souvent, lorsqu'on définit l'Oulipo, on a trois critères. On dit que ce n'est pas un mouvement, parce qu'on n'a pas vocation à grossir de manière démesurée. On explique que ce n'est pas une avant-garde, parce qu'être une avant-garde, ça voudrait dire devenir assez rapidement une arrière-garde. Donc, heureusement, on n'a pas cette vocation-là. Et puis, enfin, on dit surtout, et c'est là que je voulais en venir, on n'est pas une école. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est l'unique manière d'écrire. C'est ce qui fait qu'on existe encore. Si on pensait que c'était l'unique manière d'écrire, je pense que le groupe aurait éclaté depuis longtemps. Le fait qu'on puisse, à un moment donné, chacun d'entre nous écrire des livres non oulipiens, ce qui est le cas, par exemple, de Toutes les familles heureuses, qui n'est pas un livre oulipien stricto sensu, laisse une immense part de liberté dans notre propre travail. On n'est pas forcé de faire de l'oulipisme à tout craint et à tout prix. Donc, il y a chez chacun d'entre nous une dimension qui fait que nous ne sommes pas des fous littéraires. La folie littéraire, ça serait de penser qu'il n'y a qu'une seule manière d'écrire et que c'est celle-là qu'il faut suivre. Donc ça nous a aussi sauvés. C'est-à-dire, il y a à l'Oulipo des individus que je ne dénoncerai pas, qui sont, pour certains, excusés pour cause de décès, donc ceux-là, je peux les dénoncer, et qui ne sont pas très très loin de la folie littéraire. Mais ce n'est pas très grave. Enfin, ils font partie du paysage de l'Oulipo. Comme Blavier, par exemple, qui s'était beaucoup intéressé aux faux littéraires et qui lui-même n'était pas loin d'en être un. Donc, il n'y a pas une volonté d'annexion, il n'y a pas une volonté d'exclusion, et il n'y a pas non plus de limite à la façon de s'écarter de l'Oulipo soi-même. On peut écrire très, très loin de l'Oulipo, ça ne pose aucun problème. Paul Fournel, ancien président de l'Oulipo, et à qui je dois d'y être entré, a beaucoup écrit de textes qui ne sont pas sous contrainte. Et c'est très bien comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule façon d'écrire, et il faut qu'on puisse soi-même s'autoriser des excursions.
Alors, je vais poursuivre mon cap. Vous avez écrit, il y a quelques années, « Esthétique de l'Oulipo », que je conseille à mes étudiants, mais pas seulement à eux. J'y vois un paradoxe, parce que « Esthétique de l'Oulipo », à ma connaissance, mais peut-être que je suis ignorant, c'est possible.
Il n'y a pas d'esthétique à l'Oulipo.
Et voilà, oui.
Oui, c'est une provocation.
Et oui.
Oui, ben, c'est une... Voilà, c'est... Esthétique de l'Oulipo, c'est... Il n'y en a pas, voilà. C'est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de beau et de laid à l'Oulipo. Sauf que, quand même, à un moment donné, il y a un concept à l'Oulipo qui fonctionne assez bien, qui est l'idée de chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre oulipien. Alors, le chef-d'œuvre oulipien, c'est quoi? C'est une œuvre qui, d'une certaine manière, est une sorte de cathédrale en allumettes. C'est-à-dire une œuvre qui obéit à des contraintes tellement complexes qu'on regarde cette architecture avec une certaine admiration. Mais ça peut être une œuvre courte, hein, ça peut être un sonnet, et qui serait en soi un chef-d'œuvre oulipien. Par exemple, 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau est un chef-d'œuvre oulipien. François Le Lyonnais reprochait à Raymond Queneau d'avoir été un petit peu léger sur la côté esthétique des sonnets. Il trouvait que ce n'était pas des très très bons sonnets, mais Queneau s'en foutait, je pense. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre oulipien. C'est-à-dire qu'avec le recul, il a seulement écrit 10 sonnets. Ce n'est pas énorme. Mais avec ces 10 sonnets, il a constitué un univers de langue sur lequel on travaille encore, avec des choses qu'on peut indéfiniment retravailler, redécouvrir. Et Eduardo Berti a trouvé un moyen d'agir sur ces sonnets et de créer de nouvelles... parce que quand on a 100 000 milliards de poèmes, il est bon d'en avoir une petite sélection. Vous voyez ? Donc Eduardo a trouvé un moyen d'avoir une petite sélection de quelques systèmes de sonnets qui fonctionnent très bien entre eux. Donc pour nous, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire une petite forme élémentaire qui permet de définir en fait ce qu'on peut faire avec un projet littéraire. Donc voilà, il n'y a pas d'esthétique, mais il y a des chefs-d'œuvre. Alors ensuite, mon idée, c'est que dans ce livre, enfin, qui est en fait une ancienne thèse en linguistique, j'avais développé l'idée que si esthétique à l'Oulipo il y avait, C'était donc une notion de beau, puisque l'esthétique, c'est la science du beau, et que le beau pouvait être considéré comme, en fait, un rapport de complicité avec, avec le lecteur. Et que ce rapport de complicité avec le lecteur avait différents niveaux, différentes couches, comme les oignons, auxquels certains lecteurs n'accéderaient pas, et ça n'était pas très grave. Et donc l'esthétique était finalement la création d'un rapport de complicité avec un lecteur donné. Je dis bien un lecteur donné, parce que tout le monde à l'Oulipo a écrit des textes qui ne fonctionnent pas dans toutes les situations. Et moi j'ai écrit en particulier un recueil de poésie qui s'appelle « Les opossums célèbres », qui sont très construits de manière extrêmement simple. Je mélange une personne célèbre avec un animal. Donc, par exemple, le marsupial avec Al Capone. Donc, ça donne le marsupial Capone. Ou Marilyn Monroe avec le homard. Donc, ça donne le Marilyn Monroe. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, par hasard, vous lisez un de ces contes, qui sont des petites fables, en fait, à quelqu'un qui ne connaît pas Marilyn Monroe, vous vous faites une sorte de four absolument total. Donc, l'esthétique de la complicité tombe totalement à l'eau à ce moment-là. Donc, ça veut dire d'une manière élémentaire que si je parle d'Ebro Beatles à quelqu'un qui ne connaît que les Stones, je vais me ramasser. Si je parle du Cobra Spoutine à quelqu'un qui ne connaît pas Rasputin, je vais me ramasser aussi. Donc, ces petits poèmes, tous contiennent une fragilité qui est une fragilité inhérente à mon lecteur. J'ai écrit pour moi des choses qui m'amusaient et je me rends compte que ça ne colle pas avec tout le monde. Et ça, c'est le problème parfois des œuvres oulipiennes. C'est-à-dire qu'elles exigent un niveau de complicité qui fait que ça ne va pas fonctionner avec certains et pas avec d'autres. Ce n'est pas grave. Parce que celles-ci fonctionnent sur du culturel, mais la forme du haïku qui fonctionne sur du syllabique, elle fonctionne avec tout le monde. Donc il y a toujours un moment où ces couches d'oignons dont je parlais, on arrive à un moment donné à l'ostre et on ne touche plus le lecteur qu'on veut toucher. Et ce n'est pas grave. Voilà. Mais il faut l'avoir en tête en permanence, c'est-à-dire qu'on risque de perdre des choses. Mais de toute façon, on a aussi l'expérience de la perte à travers la traduction. Donc les auteurs savent très bien que les univers culturels sont tous différents et que ce n'est rien d'imaginer les différences culturelles au sein d'un pays lorsqu'on traverse une frontière. Je suis plus facilement compris par un Marseillais que je ne suis par un Anglais. Donc, en fait, il y a un problème qui est un problème inhérent à la littérature et aux notions de niveau, aux notions de pas de niveau, parce que c'est pas une question de l'élévation ou de hauteur ou d'altitude, mais c'est une question avant tout d'univers. Il y a des univers qui ne se touchent pas et c'est pas grave. Dans un livre de David Bellos qui s'appelle le poisson, la banane et le poisson, s'appelle la banane et le poisson parce que dans la traduction il y a deux topos. Le premier, c'est de traduire absolument tout, y compris le sens, sans jamais arriver à... En arrivant parfaitement à traduire. Et c'est l'idée qui est présente dans un livre qui s'appelle The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, donc un livre de Douglas Adams, qui s'appelle Le Guide du Voyageur Galactique, et dans lequel, à un moment donné, pour se comprendre, il faut se mettre entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, on se met un petit poisson qui vient d'une galaxie très éloignée dans l'oreille, enfin, il ressemble à un poisson, et il est capable de traduire intégralement tout ce que dit l'autre, y compris de les nuances, d'humour, de sens, etc. Et dans le deuxième cas, c'est la banane. Et la banane, c'est quoi ? C'est la traduction de la Bible en malais. Lorsqu'on traduit la Bible en malais, on a un petit problème avec le pommier. Parce qu'il n'y a pas de pommier en Malaisie. Comme tout le monde ne le sait pas, mais je vous informe, donc il n'y a pas de pommier en Malaisie. Et donc, lorsque les missionnaires, toujours animés de cette vocation qu'ils ont de transmettre, et de s'adapter, parce que parfois il faut s'adapter, ont voulu évoquer l'arbre de la connaissance, eh bien le pommier, qui était d'ailleurs autrefois le figuier, est devenu un bananier. Donc l'arbre de la connaissance est devenu le bananier en Malaisie. Je ne sais pas si vous imaginez le passage de la figue, qui est un symbole sexuel féminin, à la banane, qui est un symbole sexuel masculin. Alors là, il y a du travail à faire pour voir à quel point la traduction de la Bible donne naissance à des compréhensions très différentes de l'arbre de la connaissance.
Ce sont des questions de déplacement.
Absolument.
Et justement, enfin, nous plaisantons, c'est une bonne chose de plaisanter. Je crois que l'Oulipo déteste l'esprit de sérieux.
L'Oulipo n'a pas de position sur l'esprit de sérieux. Collectivement, il n'y a pas eu de vote.
Vous n'avez pas voté ?
Non, non, on n'a pas de vote sur l'esprit de sérieux. On a eu des votes sur des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple le fait qu'on pouvait écrire le mot QE pour que Pérec puisse écrire les revenantes avec des... Voilà. Mais sinon, sur l'esprit de sérieux, non. Les Oulipiens ont une grosse méfiance individuellement et sur cette question de l'esprit de sérieux. Mais sinon, l'Oulipo n'a pas de position. De position sur rien, d'ailleurs, l'Oulipo, en fait.
Écoutez... Je fais mon têtu ce soir.
Ouais, oui, on a une position une fois qui a été politique, qui a été.
Il me semble que l'Oulipo reprend plus ou moins à son compte et plutôt plus que moins ce que disait Queneau à propos de la littérature, lequel Queneau considérait que la littérature ne peut être que volontaire.
Oui, voilà.
Ah, c'est déjà quelque chose.
Oui, c'est pas mal, oui. Ah, et il disait aussi qu'on n'écrit pas pour emmerder le monde.
Oui.
Oui, avec les deux réunis, on obtient des textes qui ne sont pas faits pour emmerder le monde.
Oui.
Voilà. Bon, parfois, on emmerde le monde quand même.
Mais... Alors, je trouve, tout à l'heure, il y a un instant, même pas une minute, nous parlions de déplacement. Vous nous dites, il n'y a pas d'esthétique de l'Oulipo puisque le beau ou le laid ne nous intéresse pas. Et immédiatement après, vous nous parlez de chef-d'œuvre. Je dis, tiens, il y a... Hervé Le Tellier procède par déplacement. Et vous prononcez chef-d'œuvre, et j'entends comme un bémol, vous dites chef-d'œuvre oulipien.
Pour nous, le chef-d'œuvre, c'est ce que fait un compagnon charpentier lorsqu'il veut passer son brevet.
L'artisan.
L'artisan, voilà. L'artisan qui fait sa cathédrale en allumettes ou en petites briquettes pour montrer à ses camarades qu'il sait faire une charpente. Et qui va conserver ce petit objet, qui est une charpente, chez lui, pour le montrer à ses enfants, pour lui dire, voilà, j'ai passé mon brevet de charpentier, et il peut montrer sa charpente. Donc c'est ça, en fait, le brevet d'oulipien, entre guillemets, c'est le fait qu'à un moment donné, et même peut-être pas forcément avant son entrée à l'Oulipo, mais parfois après son entrée à l'Oulipo, puisqu'on fait rentrer les oulipiens, même souvent avant qu'ils aient produit quoi que ce soit, c'est le cas de Daniel Levin-Becker, qui rentre à l'Oulipo avant d'avoir écrit le moindre livre. À un moment donné, ce désir peut naître de créer un objet littéraire qui soit ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, mais au sens modeste du chef-d'œuvre, c'est-à-dire cette idée de l'ouvrier charpentier qui n'est pas à contre-paix, qui va construire sa charpente.
L'artisan qui sertit, on a employé cette...
Le bijoutier. L'orfèvre.
Le tailleur.
Le tailleur, oui, le tellier. Ou aussi même le brodeur, enfin l'ouvroir de littérature. Enfin, l'ouvroir, c'était des dames qui, au XVIe siècle, faisaient de la broderie. C'était l'idée de Albert Marie Schmitt, qui était un seizièmeiste de grande réputation, qui a dirigé dans la Pléiade le recueil consacré au XVIe siècle, du Bel Air, on sait tout ça. Cette idée de la broderie, elle est très importante chez nous. Elle dit aussi quelque chose de la manière dont, finalement, l'origine du mot texte et le mot tissu, c'est la même. Mmh. Et c'est intéressant, d'ailleurs, que ce soit la même, parce qu'évidemment, textus, c'est quelque chose... Le textile, c'est quelque chose qui est très présent dans notre idée de la littérature. Donc, le maillage, on va trouver de l'intertextualité, enfin... On pourrait multiplier les exemples dans lesquels l'étymologie du mot texte se rattache directement à cette notion de broderie. Oui. Mais pourquoi pas orfèvre pour les meilleurs d'entre nous, et puis forgeron irait très bien aussi, c'est pas un problème. Donc oui, c'est en tout cas un artisanat. Notre vision de la littérature va plutôt du côté de l'artisanat que du côté de l'artiste. De même que c'est on parlait de fracture, de continuité. Il y a une fracture très nette avec le groupe surréaliste, par exemple. Cette fracture, elle est nette parce que c'est un refus du poète inspiré. C'est un refus de la muse. C'est un refus, voilà. C'est Queneau disait de manière assez provocatrice, le poète est toujours inspiré, ce qui réglait la question de manière tautologique, comme souvent savait le faire Queneau. Mais c'est aussi peut-être un rapport au monde qui est un rapport modeste. Alors ça peut paraître à la fois ça peut paraître contradictoire d'avoir un rapport modeste au monde alors que le but de chacun des Oulipiens, c'est d'écrire des œuvres. Mais ce n'est pas du tout, en fait, si une contradiction.
Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Une œuvre, c'est au pouce. Hein.
Oui, oui, au pouce.
C'est très modeste.
Oui, c'est modeste. Et donc, c'est pour ça, bon, c'est pour ça que le chef-d'œuvre, la tête de l'œuvre. Mais donc, cette idée de l'œuvre modeste nous semble très importante. Pérec avait, en fait, classifié ses travaux en quatre. Et cette division en quatre me paraît toujours très opératoire. Il avait distingué d'un côté ce qui revelait de manière assez noble de l'œuvre, c'est-à-dire du roman dans lequel il classait la vie mode d'emploi. Il avait mis ensuite des éléments qu'on peut appeler l'autobiographie. L'autobiographie étant parfois Ellis Island, qui en relève un petit peu. Il avait mis une troisième partie qu'il appelait l'infraordinaire. L'infraordinaire qui était la réflexion sur la manière dont s'organise le monde et dont on en parle banalement. Ça va de l'objet, en passant par la description de la place Saint-Sulpice de manière systématique dans l'épuisement d'un lieu parisien. Et puis, dernière partie, la quatrième partie, il avait mis les gammes, c'est-à-dire les petits exercices oulipiens ludiques, amusants, dans lesquels il classait les lipogrammes, dans lesquels il classait toute une série de petits objets littéraires qui étaient en fait de la manipulation langagière. Et cette classification, elle est très opératoire à l'Oulipo. C'est-à-dire qu'on voit qu'on oscille de l'un à l'autre. Parfois, on mêle les deux. On mêle deux d'entre eux, trois d'entre eux, quatre d'entre eux. Et il y a tout ça, en fait. C'est ce qui permet, en fait, d'écrire des œuvres plus complexes, peut-être, que pas mal d'autres, parce qu'on ne s'interdit pas aucun de ces quatre secteurs. C'est pourquoi on va trouver dans beaucoup de livres oulipiens des choses qui relèvent aussi bien du ticket de métro. Tout à l'heure, on parlait de Lord Bertie qui met des QR codes, qui est une nouvelle forme d'apparition de forme dans un livre, de manière à ce qu'il y ait une extension à ce livre. Bon, c'est une démarche qui va vers l'ouverture du livre. C'est-à-dire que d'un seul coup, on propose une ouverture. Cette combinaison de toutes les démarches fait que les livres oulipiens ont, à mon avis, cette diversité qui est volontaire, une fois de plus, parce que l'écriture est volontaire.
Avant de nous tourner vers l'assistance, j'ai encore deux points à propos desquels j'aimerais vous entendre. Vous venez de parler du dernier livre d'Eduardo Berti avec les QR codes. Vous me tendez la perche pour revenir sur la question de l'inspiration d'un certain romantisme, d'une certaine pratique surréaliste de la littérature. J'entends, la littérature ne peut être que volontaire, mais il y a des intentions et puis il y a des pratiques. Et il me semble que quand les Oulipiens, ou quand vous-même, vous énoncez vos choix, vous prenez la précaution de laisser une place vide, une chaise vide, pour que quelque chose puisse venir là. Quelque chose que vous nommez pas.
Oui, oui, qui est advenir même. Voilà. Oui, alors ça c'est... En fait, il y a différentes manières d'y répondre. Moi, je répondrais d'une manière un peu simple, en disant que les choses adviennent parce que c'est la contrainte qui les crée. En fait, c'est même pour ça qu'on utilise la contrainte. Parce qu'en fait, on peut développer sur la raison pour laquelle les Oulipiens utilisent la contrainte. Lorsque Pérec a fini La Disparition, il a donné sa machine à écrire à Paul Fournel, machine à laquelle il avait arraché la lettre E, histoire d'être bien certain de ne jamais taper le E. Et il lui a dit, regarde, par quels expédients je suis forcé de passer pour arriver à écrire. ça dit quelque chose, en fait, chez Pérec, qui est assez puissant, qui est l'idée qu'il avait besoin, il l'a souvent exprimé, de la contrainte comme un levier. C'est pas forcément à l'Oulipo la position générale de chacun des Oulipiens. Il y a toujours un débat à l'Oulipo entre la contrainte comme outil, la contrainte comme principe, la contrainte comme procédé. Tous ces débats sont ouverts. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on dit advenir, les choses adviennent parce que la contrainte les fait naître. Et la contrainte, ce n'est pas nous. C'est-à-dire qu'il apparaît des choses dans les textes qui ne sont pas anticipées et qui sont justement nées de ce qu'on s'est imposé. Lorsque, par exemple, tout à l'heure, de manière très banale, je disais le cobra Rasputin, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que je veux parler de Rasputin, je n'ai pas un nombre infini d'animaux qui se terminent par rat. Voilà. Et je vais sélectionner parmi les nombreux animaux qui se terminent par rat, qui sont 3-4 peut-être, et je vais prendre celui qui m'intéresse le plus, qui est le serpent, qui est celui qui, pour moi, évoque le plus Rasputin. Et une fois que j'ai mon cobra et Rasputin, les choses apparaissent naturellement. C'est-à-dire que j'ai un animal qui est chargé d'une symbolique et Rasputin qui est très très chargé d'une autre symbolique. Et puis je vais combiner ces deux choses-là ensemble. Donc on voit que là, la contrainte fait naître des choses qui adviennent et qui adviennent d'une manière langagière et qui sont d'ailleurs liées à la langue. Ça ne va pas marcher dans une autre langue. Peut-être pour le cobra, ça marche plutôt bien, parce que le cobra, c'est le même nom dans toutes les langues, mais le tigre et le tiger, ce n'est pas du tout la même chose, ça ne va pas signer pareil, je ne pourrais pas jouer pareil. Donc, les choses adviennent grâce à la contrainte, et je pense que c'est pour ça que les Oulipiens l'utilisent. Parce qu'ils sont emmenés dans des endroits qu'ils n'ont pas prévu d'explorer, et que la contrainte leur permet de sortir de leur premier jet. C'est une formule qui, à l'Oulipo, est assez classique que de dire que le premier jet est toujours banal et peu riche, et que la diversité naît avant tout d'une démarche différente. L'inversion, par exemple, d'un roman, c'est une contrainte. Faire Monsieur Bovary, c'est une contrainte. Donc, toutes ces choses, ce sont des choses qui adviennent parce que ce sont des choix qui sont des choix arbitraires, ou pas, d'ailleurs. L'arbitraire est une question qu'on peut se poser. Et qui font advenir. Je crois beaucoup au côté fécond de la contrainte pour ces raisons-là. Et j'aime bien aussi, là aussi il y a un débat à l'Oulipo entre est-ce que la contrainte doit être arbitraire ou pas. Je suis partagé, il m'arrive d'utiliser des contraintes arbitraires. Queneau, lorsqu'il choisit de prendre le sonnet, c'est arbitraire. Pourquoi prendre les sonnets? C'est parce qu'il a décidé que c'était le poème par excellence, mais il aurait pu prendre la Villanelle ou il peut prendre le Chant Royal, il prend le sonnet parce que ça lui paraît évident. Et donc, le système lui-même de la contrainte fait naître des choses qui ne sont pas prévues. Et cet imprévisible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le hasard, fait que l'Oulipo peut être considéré comme l'anti-hasard et en même temps utiliser les phénomènes de combinaison comme étant l'un des plus puissants moteurs de la création.
Je trouve que c'est la grande force, je dirais, du corps de doctrine de l'Oulipo, de refuser la littérature et l'écriture comme dictée de la pensée, Breton, etc., et en même temps de pratiquer la littérature en laissant la possibilité d'une pointe de dictée de la pensée. Parce qu'il me semble qu'il est tout à fait possible qu'un Oulipien détermine un dispositif, un agencement, une contrainte, et ensuite il y a la dynamique de l'écriture. Et la dynamique Bien de sûr. L'écriture peut bouleverser le dispositif.
Alors oui, mais je vais prendre la vie mode d'emploi de Georges Perec. Georges Perec s'impose 20 contraintes par chapitre, enfin une vingtaine, disons, de contraintes par chapitre. Les chapitres font une vingtaine de pages. Il arrive que dans le premier paragraphe, il règle toutes les contraintes. Et donc, c'est comme s'il s'était amusé en un paragraphe à éliminer tout ce qui lui a imposé. Il a mis dedans la couleur, il a mis la matière, il a mis la citation, il a mis l'auteur, etc. Et puis c'est fini. Et après, il lui reste 19 pages pour faire ce qu'il veut. Donc en fait, il triche. Mais il a ce démarreur de départ qui fait qu'il va, il va pouvoir avancer. Donc oui, bien sûr, vous avez raison.
La contrainte comme shifter.
Oui, c'est ça, comme shifter. Mais la vraie force de la contrainte, vraiment, c'est d'aller ailleurs. Moi, je sais que j'ai été étonné de découvrir que dans 53 jours, j'ai cherché, mais j'ai travaillé sur la préface récemment. Les démarreurs de chacun des chapitres sont inspirés de la Chartreuse de Parme. C'est invisible, c'est-à-dire il faut vraiment une exégèse fouillée pour voir comment Pérec fait bouger la Chartreuse de chapitre en chapitre. Ça se voit à peine. Et ça donne une idée de la manière dont finalement la contrainte est masquée, c'est-à-dire que de temps en temps elle est visible, de temps en temps elle est masquée. Ça, c'est aussi un débat qu'on n'a pas abordé, mais fondamentalement, oui, il y a ce phénomène de la... qu'on se libère assez vite de la contrainte pour laisser toute la place à l'écriture. Et que, dans certains cas, comme je disais, elle était un principe, dans certains cas, elle était un outil. Pour Pérec, souvent, elle était un outil, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je n'ai pas de problème majeur avec cette idée que on puisse parfaitement faire abstraction de tout ce qu'elle peut imposer. Le Klinamen, par exemple, à l'Oulipo, qui est une notion assez forte, qui dit qu'on peut ne pas utiliser la contrainte si on sait qu'on pourrait l'utiliser. Ce qui ouvre là pour le coup,
tout est permis.
Oui, d'un seul coup, là, on peut vraiment absorber toute la littérature mondiale. Là, d'un seul coup, on a l'éponge dans laquelle on peut faire entrer jusqu'à Ezra Pound sans aucun problème. Donc oui, cette idée, elle est puissante, mais elle est amusante en même temps. Il y a quelques péri-oulipiens, donc des gens qui ne sont pas membres de l'Oulipo, mais qu'on observe avec beaucoup d'intérêt, et qui font des choses proches de nous. Et souvent, on est fasciné, j'en parlais récemment avec un ami, de la manière dont ils font exactement la même chose au niveau du principe même, et d'une manière extrêmement différente. Je pense à un livre de Georges Pérec, de Marcel Benabou, qui s'appelle Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Et Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres est un livre auto-référencé du début à la fin. Et commence par, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais ça commence par d'abord une phrase courte, ensuite une phrase plus longue qui installe le lecteur dans une certaine. Finalement, le livre s'auto-référence de phrase en phrase, et tout le livre est déroulé sans que jamais il ne soit question d'une quelconque narration, d'une quelconque fiction, et ça fonctionne extrêmement bien, et on le lit jusqu'au bout fasciné par ce qu'on a réussi à faire. Et quand on voit ça, on se dit, bon, ça a été fait une fois, on ne peut pas le faire deux fois. En fait, si. Guy Bennett l'a fait dans un livre qui s'appelle « Ce livre ». Et Guy Bennett est un auteur américain qui a, je crois, une soixantaine d'années, et qui a écrit ce livre, peut-être en connaissance du texte de Pérec, mais du texte de Marcel Benabou, mais peut-être pas. Et puis, je pense à un autre texte, qui est évidemment La Disparition, où on peut se dire que ce texte a été fait une fois et on ne peut pas faire deux fois La Disparition. Or, Jacques Jouet, qui est un très grand inventeur de formes, a commencé à écrire, voici quelques années, un livre qui s'appelle L'Imitation. Et qui est un livre aussi qui est un lipogramme en E, dans lequel le héros s'appelle, je ne sais plus comment, si quelqu'un s'en souvient. Et il imitait tout. Voilà. Et il continue comme ça sur ce mode, en arrivant à raconter une autre histoire que celle de la disparition, à travers l'idée de l'imitation. Donc on se dit qu'en fait, il n'y a pas de limite à la créativité autour d'une contrainte qu'on pense pourtant être épuisée. Et ça, c'est très, très réjouissant.
Ma dernière question, pas véritablement une question. Nous avons beaucoup parlé de transmission, d'inspiration, de figure tutélaire. Mais en fait, en vous écoutant pendant les trois quarts d'heure que nous venons de passer ensemble, je me demande si un oulipien ne cherche pas, non pas un père, ni même un fils, mais une fratrie, des frères. C'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, nous filons la métaphore de la famille, mais peut-être qu'il conviendrait de déplacer et de ne pas parler de famille, mais de parenté, et de repérer dans la parenté la fratrie.
Oui. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui nous constitue en tant que oulipiens, c'est un doute par rapport à la langue. C'est-à-dire que nous n'avons pas confiance dans la langue. Et nous n'avons pas confiance dans la manière dont la langue aborde le réel. Je pense que c'est ce qui fait peut-être la communauté des oulipiens ou des péri-oulipiens, c'est que la contrainte autorise tout, parce que justement, la langue est elle-même manipulatrice. Qu'on croit qu'on est naturel dans la langue, mais que l'oulipien a une certaine conscience du fait qu'il n'est pas naturel dans la langue. C'est-à-dire que la langue, constituée de mots, est une forme, ce qu'on appelle en mathématiques, une forme discrète, c'est-à-dire, et numériquement limitée, de phonèmes qui, croyons-nous, nous permet de recouvrir le réel. Et donc, nous pourrions avoir l'illusion qu'en utilisant tous les vocables disponibles dans la langue, on pourrait écrire une fiction qui corresponde exactement au réel. Or, en fait, le réel est infini, il est continu. Il y a une infinité de couleurs dans un spectre, mais nous n'avons qu'une trentaine de mots pour définir toutes ces couleurs. Donc, en quelque sorte, le pavage que constitueraient les mots laisserait toujours, en fait, entre les dalles, des petits brins d'herbe qui surgiraient de ci et de là et qui constitueraient l'intouché du langage, c'est-à-dire quelque chose que le langage n'atteint pas. Et ce qui constituerait la fratrie qu'est l'oulipo, ce serait cette communauté de pensée que, parce que, justement, nous ne pouvons pas toucher par le langage le réel, la contrainte nous autorise à ne pas être dupes de cette incapacité. Et puisque nous ne sommes pas dupes de cette incapacité de la langue à toucher le réel, la contrainte nous donne tous les droits. Ce qui veut dire que, par exemple, on peut très bien écrire un 3 quatrains de deuil dans les contemplations, comme le fait Hugo, en sachant très bien que ce qu'il écrit n'est pas son deuil, n'est pas exactement ce qu'il aurait pu dire avec des mots, mais que la contrainte qu'il s'applique de la rime et du rythme va l'emmener ailleurs que sa propre douleur. Et au fond, la littérature, c'est ça, c'est-à-dire utiliser des mots qui sont très limités pour raconter une histoire qui, au fond, parce que les mots sont très limités, ne sera pas le réel. Et il y a chez l'oulipien cette acceptation-là, c'est-à-dire cette acceptation et ce deuil de la capacité de la langue qui nous autorise plus encore que simplement l'illusion d'une prose qui ne serait pas contrainte et qui penserait, parce qu'elle est libre, parce qu'elle se croit libre, qu'elle a recouvert une partie du réel. Nous n'avons pas cette illusion-là, nous pensons que la langue est limitée, et c'est cette limitation qui nous autorise tout, en fait, et qui nous donne la liberté d'aller plus loin avec la contrainte. Moi, ça m'a toujours frappé qu'au bout d'un moment sur un texte, j'abandonne. J'abandonne parce que je n'arrive pas exactement à dire ce que je voulais. C'est important, cette conscience de ne pas avoir réussi à dire ce qu'on veut. C'est ce que Benjamin explique. Lorsqu'il faut traduire un texte, dit Benjamin, il ne faut pas traduire le texte. Parce que le texte, l'auteur n'a pas de toute façon réussi à dire ce qu'il voulait. Donc, ce que Benjamin dit au traducteur, il dit « ne visez pas le texte, puisque le texte est déjà un échec, visez ce qu'a voulu atteindre le texte et traduisez ça ». Donc c'est une pointe de triangle qui se trouve au-dessus du texte et que la traduction va tenter d'atteindre comme le texte dans la langue originelle a tenté de l'atteindre. Et donc c'est un deuil, d'une certaine manière, de la volonté de l'auteur d'arriver à définir le réel. Et c'est ça qui justifie, à mon avis, l'oulipo, c'est cette acceptation du deuil de la langue. Et c'est la contrainte qui va permettre d'aller au-delà du deuil.
Vous savez que je lis un peu Freud et Lacan. En vous écoutant, j'aimerais vous soumettre une formule. Est-ce que être oulipien, ce n'est pas essayer de déjouer le midi de la langue ?
Le nadir ?
Oui.
Ouais, le midi. Persévère, le midi. Oui. C'est très difficile à traduire. Hein. Voilà. C'est un des problèmes de Lacan, c'est que c'est difficile à traduire. Ça me rappelle une conférence de Dolto où elle dit que les enfants sont autistes parce qu'ils ont du mal à lire, parce que le lit est le lieu central où s'est passé l'acte primal par lequel ils sont nés. Et il y a un mec dans la salle qui dit « I'm English, I don't understand. And we have dyslexic too. » Donc il y a aussi des dyslexiques en anglais, alors que pour eux, le mot « lit », ça ne veut rien dire, vous voyez. Enfin, « red » et « bed », ce n'est pas pareil. Voilà. Donc il y a une limite, en fait, à Lacan. Je suis désolé de le dire. Mais « limite hein, », comme dirait l'autre. Voilà. Je les garderai, celle-là.
Tant que ce n'est pas une frontière.
Non. Non, mais je reste sur cette idée quand même assez forte de l'idée qu'effectivement le pavage du monde est limité. C'est ça qui me paraît absolument tout justifié. Lorsqu'on parle de la contrainte, parfois à l'Oulipo, on a encore une dernière formule que j'aime bien et que je vais donner, qui est l'idée du tuyau d'arrosage. Et cette idée du tuyau d'arrosage, je l'ai toujours trouvée formidable. Donc on prend un... Et ça rappelle cette idée du premier jet dont parlait Flaubert, et ça ramène à l'idée du jet, donc du tuyau d'arrosage. Le jet, c'est par définition un tuyau par lequel sort de l'eau à la vitesse de la pression naturelle que nous fournit, la ville dans laquelle nous habitons, ou le château d'eau. Mais si on appuie sur le bout du tuyau, on réduit forcément la surface par laquelle sort l'eau. Et cette réduction de la surface, elle permet d'aller plus loin et d'arroser le bout du jardin, alors que sinon on n'y arrive pas. Et je trouve que c'est intéressant que la contrainte permette d'arroser le bout du jardin. Et pas seulement la plate-vente qui est juste devant nous, et qu'en appuyant sur le bout, on va un peu plus loin. On peut même arroser des gens, et ça s'appelle la complicité avec le lecteur. Et c'est parce qu'on arrive à le toucher avec le bout du tuyau, parce qu'on appuie dessus.
Je pense qu'en votre nom, à toutes et à tous, nous pouvons remercier Hervé Le Tellier. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Et je vous dis à bientôt à Station Ozone pour un autre après-midi à Bordeaux.